Il n'est pas très difficile de comprendre la signification d'ensemble de cette parabole. D'abord, la vigne, c'est Israël. Et le passage du livre d'Isaïe que nous venons d'entendre en première lecture nous l'a précisé. Les serviteurs envoyés par le maître de la vigne, ce sont les prophètes qu'on a si souvent persécutés en Israël. Le fils du maître de la vigne, évidemment, c'est Jésus lui-même. Quant aux vignerons homicides, attention. Les vignerons homicides, ce n'est pas Israël, mais ce sont les chefs d'Israël, qui tout au long de son histoire se sont violemment opposés aux prophètes et parfois les ont mis à mort. Donc, cette parabole est sans équivoque. Elle s'adresse à qui ? Aux grands prêtres et aux pharisiens, aux chefs du peuple d'Israël, qui, en dignes descendants des vignerons homicides, rejettent Jésus et méditent même de le mettre à mort. Et d'ailleurs, la finale du texte d'aujourd'hui le précise, les grands prêtres, les pharisiens, en entendant ces paraboles, comprirent bien qu'il les visait. Bon, donc apparemment, tout est clair dans cette parabole. Mais une fois qu'on a dit cela, l'attitude du maître de la vigne est tout de même bien étrange. Pour tout dire, elle paraît même incompréhensible. Surtout si l'on suit la version qu'en donne Matthieu, celle que nous venons d'entendre. Car si on compare la version de Matthieu à celle de Marc et de Luc, eh bien, on s'aperçoit que la version de Marc et de Luc, donc, permet de mieux saisir la progression de ce qui se produit. Elle donne quelques vraisemblances à l'ensemble. Elle permet de saisir la progression dans la violence et la cruauté des vignerons. Ils malmènent seulement les premiers envoyés, les seconds, ils les blessent et les outragent, et seuls, les derniers, et finalement, le fils du maître, sont mis à mort. Mais dans le récit de Matthieu que nous venons d'entendre, on ne trouve pas ce crescendo de l'horreur. Dès le début, les vignerons massacrent les serviteurs. Ils massacreront les premiers, ils massacreront les seconds, ils massacreront les troisièmes, et finalement, ils tueront Jésus. Et ce qui est stupéfiant, c'est que tout cela n'empêche pas à chaque fois le maître de relancer le même programme, à savoir d'envoyer des prophètes pour réclamer le fruit de la vie. C'est ça qui est étrange. Après le meurtre des premiers serviteurs, il aurait été normal que le maître de la vigne fasse tout de suite donner la troupe pour châtier les coupables. Eh bien non. Le maître de la vigne s'obstine à envoyer des serviteurs. Toujours le même scénario. Serviteurs un petit peu plus nombreux, il est vrai. Mais ce qui met le comble à l'étrangeté, pour ne pas dire à l'invraisemblance psychologique de ce récit, c'est la dernière tentative du maître de la vigne, sa décision d'envoyer son propre fils. Et le motif qu'il en donne, ils respecteront mon fils. Comme il est pareil naïf, le maître de la vigne. Il s'imagine qu'après tous ces meurtres que les vignerons viennent de commettre, ils reviendront à de meilleurs sentiments. Ils finiront par se laisser toucher, ou en tout cas par se laisser impressionner par l'envoi de son fils. Mais rien de tout cela ne se produit. Alors, comment expliquer l'étrange obstination du maître de la vigne ? Et d'abord, qu'est-ce qu'il veut, le maître de la vigne ? Ce qu'il veut, répondra-t-on, c'est le fruit de la vigne. Cette réponse est très insuffisante, car si le maître avait seulement voulu le fruit de la vigne, après l'échec de la première tentative, il lui aurait suffi d'envoyer la troupe pour arracher la précieuse récolte aux vignerons. Cela aurait évité la mort de beaucoup de serviteurs prophètes, et surtout celle de son fils. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'il veut, le maître de la vigne ? Eh bien, ce n'est pas exactement le fruit de la vigne. Mais, et c'est bien différent, ce qu'il veut, c'est que les vignerons lui donnent le fruit de leur travail. Cette récolte, il ne veut pas l'accaparer. Il veut que les vignerons lui offrent librement le fruit de leur travail. Or, on ne peut pas contraindre quelqu'un à vous donner quelque chose. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de lui faire sentir que ce serait bien qu'il le fasse. Et voilà pourquoi le maître n'envoie pas des soldats, mais des prophètes. Et finalement, son fils, pour essayer de toucher le cœur des hommes et ainsi de les amener à travailler librement pour lui et de lui offrir le fruit de leur récolte. Il est bien étrange, le Dieu des paraboles de Jésus. Dans plusieurs paraboles, en effet, on retrouve cette même idée. Dieu confie aux hommes des dons pour que les hommes les fassent fructifier et que les fruits ainsi obtenus soient rendus au Seigneur. Ici, c'est la vigne. Ailleurs, souvenez-vous, c'est des talents qu'il va falloir faire fructifier. Serait-il à progain, alors, le Seigneur ? Est-ce qu'il veut absolument que nous lui rapportions des intérêts ? Non. Il est tellement soucieux de nous voir travailler à sa vigne qu'on le voit même aller à la recherche des ouvriers de la 11e heure, comme s'il tenait absolument au plein emploi de l'humanité. La clé de cette énigme. Eh bien, il me semble que le Seigneur lui-même nous en fait la confidence dans un passage du psaume 49, où on lit ceci. « Si j'ai faim, je n'irai pas te le dire. Le monde est à moi et tout ce qu'il contient. Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. » Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Appelle-moi au jour de l'angoisse, je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Retenons d'abord le premier verset. Je ne retiendrai que lui, je vous rassure. Si j'ai faim, je n'irai pas te le dire. Autrement dit, si par impossible le Seigneur avait besoin de quelque chose, il se servirait lui-même. Il y a toute la création qui est à son service. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous lui offrions en sacrifice d'action de grâce, que nous fassions retourner au Créateur les dons qu'il nous a offerts. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous travaillions avec ces dons et que nous les offrions avec reconnaissance. que ce soit la vigne, que ce soit les talents qu'il nous a donnés, que ce soit le champ, c'est toujours le même schéma. Le Seigneur attend de nous cette plus-value de l'action de grâce, du travail que nous lui offrons. Si j'ai faim, je n'irai pas te le dire, disait fièrement le Seigneur d'Israël. Est-ce si sûr ? En fait, en Jésus, il a fini par l'avouer. En Jésus, son enfant bien-aimé, il a fini par avouer le contraire. Souvenez-vous, « Donne-moi à boire », a-t-il dit à la Samaritaine. Ou encore, « J'ai soif », a-t-il crié sur la croix. Et là, eh bien, on comprend pourquoi la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Car en entendant en Jésus, Dieu qui nous avoue qu'il a soif, qu'il faut lui donner quelque chose, alors on a le cœur transpercé et on se tourne vers lui. Et c'est alors qu'on peut devenir vraiment le bon serviteur de sa vigne. Amen.